Nous allons poursuivre avec notre sujet principal du jour qui va porter sur les actions de la DINSIC, donc Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Je l'ai noté pour ne pas oublier la signification. Donc, et j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi donc Bastien Guéry qui est référent logiciel libre. Bonjour Bastien.
Hello.
Et Xavier Béchade qui est chef de projet CHAP.
Bonjour à tous.
Alors bien sûr, nous aurons l'occasion d'expliquer ce qu'est CHAP. Alors l'idée, c'est de faire un petite présentation un peu de l'action de cette structure qui est importante. On a déjà abordé certains sujets de la DINSIC dans l'émission du début janvier. Je ne me souviens plus la date exacte, mais je la retrouverai 2019 avec Laurent Joubert et Mathilde Bras. Mais là, on voulait rentrer un peu plus dans le détail d'un certain projet, notamment le référent logiciel libre. Donc, pour une émission de l'April, c'est évidemment important. Et pour parler aussi d'un projet un peu spécifique, donc, qui est le projet CHAP. Alors déjà, première question, un petit tour de table de présentation. D'où vous venez, votre parcours et ce que vous faites à la DINSIC? On va commencer par Bastien Guéry.
Oui, donc moi, j'ai une formation en sciences humaines au départ, en philosophie. Puis je me suis passionné pour le logiciel libre un tout petit peu avant les années 2000. D'abord comme militant, parce que j'étudiais la philosophie. Et puis ensuite, je me suis plongé dans Linux, fr.org. J'ai découvert la communauté et je me suis mis à la programmation en tombant notamment dans Emacs. J'y ai pris goût. Je suis devenu contributeur du logiciel libre, puis mainteneur, ce qui m'a donné un peu une vue aussi sur ce que c'est au-delà de la simple contribution, comment on gère un progrès qui peut être important. Et puis ensuite, un tournant, ça a été de quitter les sciences humaines pour m'engager plus du côté de l'associatif en travaillant notamment pour Wikimedia France en 2010. Je suis devenu indépendant en faisant à la fois du développement et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et j'ai eu la chance d'entrer dans le programme Entrepreneur d'intérêt général en 2017, qui est un programme lancé par Etalab et la DINSIC pour faire entrer des profils tech un peu différents dans des projets de l'administration où elle essaye de travailler de façon plus agile, en itération, sur des irritants, des projets précis portés par des agents des administrations qui sont des mentors. Et j'ai continué dans ce programme l'année d'après parce qu'on avait identifié le besoin de souder un peu la promotion des entrepreneurs d'intérêt général. On était 11 en 2017, on était 32 en 2018. Et l'idée, c'était de capitaliser pour grandir. Donc, on a grandi, ça continue. Mathilde Bras en avait parlé. Et cette année, depuis décembre, je suis référent logiciel libre à Etalab au sein de la DINSIC. Et mon rôle est d'accompagner les administrations sur l'utilisation et la publication des codes sources produits par l'administration.
Donc, on va rentrer évidemment dans le détail tout à l'heure. Etalab, c'est la partie données publiques, on va plutôt dire, de la DINSIC. Xavier Béchade.
Bonjour, alors moi je suis arrivé dans le libre un peu plus récemment parce que j'ai une formation d'ingénieur. Donc j'ai passé pas mal de temps à grenouiller sur des sujets qui touchaient plus à la fibre qu'au logiciel.
La fibre optique.
La fibre optique, oui.
On va préciser.
La fibre optique, tout à fait. Quand on est dedans, on sait ce que c'est, mais effectivement. Pour mener un certain nombre de projets. Et puis j'ai rejoint la DINSIC plus récemment en 2015 sur des projets de mutualisation, puisque la DINSIC fait de l'interministériel. Donc mon rôle, ça a été de mener des projets qui sont mutualisés entre les ministères. Pas forcément du libre au départ. Et parmi ces sujets, on en parlera plus tout à l'heure, est arrivé CHAP et on va développer tout à l'heure. Et là, ça m'a donné l'occasion d'arriver dans le libre. Donc actuellement, je porte une petite équipe d'ailleurs qui s'occupe de ces projets-là. Ça touche à des sujets très divers autour de l'hébergement informatique, autour de la messagerie, mais aussi d'autres sujets. Voilà, donc c'est un peu ce qui m'occupe au quotidien.
D'accord. Donc l'émission dont je parlais, c'est le 8 janvier 2019. Donc vous pouvez regarder écouter plutôt le podcast où on a parlé notamment du programme d'entrepreneurs d'intérêt général avec Laurent Joubert et Mathilde Bras de la DINSIC. Bon, j'ai la première question. On va revenir rapidement, Bastien, sur le contexte juridique de la loi pour la République numérique et notamment sur la partie logicielle, parce que c'est en grande partie suite à ce contexte juridique qu'il y a cette action référent logiciel libre, politique de contribution qu'on va évoquer tout à l'heure.
Un mot avant le contexte juridique, c'est de dire que le libre a existé dans l'administration bien avant la loi pour une république numérique et l'ensemble de l'écosystème, y compris les associations, étaient déjà actifs pour sensibiliser les députés, pour dialoguer directement avec les administrations. Deux projets emblématiques et historiques de cette mobilisation autour du logiciel libre avant même la loi pour une république numérique, c'est le socle interministériel du logiciel libre qui a donc démarré dans le milieu des années 2000 et qui consistait à essayer de faire converger les administrations autour de solutions libres recommandées Le deuxième projet emblématique, c'est le marché de support logiciel libre. Les administrations identifiant un besoin de support commun sur des souches libres qu'elles utilisent dans plusieurs administrations, se sont dit, ben, faisons un marché de support pour être sûr d'avoir le support dont on a besoin sur ces souches-là. Donc ces choses-là, ces projets existent, étaient expérimentés avant la loi Lemaire, qui dit donc en 2015-2016, cet octobre 2016, que les logiciels sont des données publiques, administratives, au même titre que les données scalaires qu'on retrouve dans l'open data. Donc en disant cela, elle invite les administrations à publier le code source des logiciels. Il y a évidemment des conditions. Il faut que ce soit du code source développé dans le cadre d'une mission de service public. Il faut que le code source soit achevé, qu'il n'y ait pas de secret relatif ou absolu. Donc il y a tout un ensemble de conditions, mais ce sont des conditions qui s'appliquent aussi dans le cadre de l'open data. Donc on relève bien du même régime et c'est dans l'idée de continuer à valoriser les données publiques, à la fois dans un but de retombée économique, comme pour l'open data, en disant bah, s'il y a une contribution de l'administration à un écosystème, et bien cet écosystème peut s'en emparer pour faire des entreprises, des startups et autres, et dans un autre enjeu de transparence auprès du citoyen sur les outils qui sont utilisés en production. Cette transparence, elle est particulièrement décisive dans un cas particulier, qui est le cas des logiciels qui mettent en œuvre des algorithmes de décision et un impact sur les individus. Pour le dire très concrètement, le cas de Parcoursup, que les gens connaissent bien. Dans le cadre de Parcoursup, il y a une obligation de l'administration de mentionner explicitement les algorithmes utilisés et d'être redevable vis-à-vis du citoyen, d'expliquer comment ça marche. Donc c'est une thématique différente du logiciel libre et du code source, mais l'ouverture des codes sources entre comme un élément de transparence aussi.
Avant de laisser Xavier Béchat compléter, s'il le souhaite, cette partie-là, deux petites précisions. Donc, tu lis effectivement la DINSIC, cette dynamique logicielle libre n'est pas nouvelle. Comme évoqué lors de l'émission de janvier, la première structure interministérielle s'appelait de mémoire la MTIC, donc c'était 98 ou 99. Alors je vais dire la signification de mémoire aussi, je crois que c'était Mission Technologie de l'Information et Communication, donc ça remonte à loin. Et deuxième chose, tu parles de Parcoursup, comme l'émission est superbement bien préparée, la chronique qui suit le sujet long de Xavier Bern, une partie portera justement sur Parcoursup et une décision récente du Conseil d'État. Xavier Béchat, est-ce que tu souhaites réagir sur cette introduction sur le contexte juridique ?
Non, du tout. Non. Je pense que simplement, la DINSIC est aussi acteur aussi sur des projets de messagerie libre. On en a parlé, ça ne pense pas seulement à une stratégie de données, donc on est vraiment dans un domaine assez familier.
D'accord. Alors, vu qu'on est dans l'introduction et qu'on parle de la DINSIC, j'ai posé la question qui fâche, parce qu'évidemment, je suis obligé de la poser. Donc, la DINSIC existe depuis quelques années. Il y a eu plusieurs directeurs qui se sont succédés, Jérôme Filippini, Jacques Marzin, Henri Verdier. Alors, je suis désolé si j'en oublie un, mais je ne crois pas. Depuis fin décembre ou début janvier, donc, il y a un nouveau directeur qui est Nadi Bouhanna, et... qui a soulevé quelques inquiétudes, alors à la fois par une interview justement de Xavier Bern dans Next Impact, dans lequel il y avait une question, je crois, sur la notion de priorité au logiciel libre, et lui indiquait que c'était un débat du début des années 2000 et qu'il préférait une approche pragmatique, et puis d'autres événements qui ont fait qu'il y a eu une certaine inquiétude. Est-ce que la dynamique logiciel libre se poursuit à DINSIC ? Bon, je suppose que si vous êtes là, la réponse est sans doute positive. Voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu rassurer les gens qui s'inquiètent un peu ?
Alors, Nadi Bouhanna est arrivé le 10 décembre de l'année dernière. La dynamique autour du logiciel libre continue, sinon je ne serais pas là. Et non seulement elle continue, mais elle s'incarne, sinon Xavier Béchat ne serait pas là. Et je dirais que moi, je n'ai pas peur du tout des mots de pragmatisme. L'environnement administratif est un environnement forcément contraint en termes de ressources humaines, en termes de moyens. Et il faut tenir compte de ces contraintes pour passer du déclaratif à l'effectif. Passer du déclaratif à l'effectif, ça veut dire mesurer ce que signifie l'autonomie, la maîtrise de nos systèmes d'information et leur efficacité. C'est aussi un mot que Nadi Bouhanna a employé et on ne peut pas faire l'impasse sur l'efficacité. On reparlera peut-être de la feuille de route TechGouv et des grandes priorités, mais dans les grandes priorités, il y a la simplification pour les usagers. C'est le rôle de l'administration.
La feuille de route, elle est publiée déjà ?
il y a les grands axes de la feuille de route qui sont publiés avec six priorités, attractivité, inclusion, simplification, économie, maîtrise et alliance. Donc,
alors, tu vois, j'avais loupé la publication de cette feuille de route, mais on la rajoutera.
Le lien,
voilà, exactement, et ça me permettra de la lire avant de partir en vacances.
Maîtrise, c'est, on est là-dessus, on est dans les systèmes d'information. Donc, une partie de la DINZIC, par exemple, s'occupe du réseau qui met en communication l'ensemble des administrations. Bah, là, ça demande de la maîtrise et il y a des enjeux qui sont au-delà du logiciel libre. Donc, moi, le pragmatisme, ça me va très bien. Ça veut dire qu'on passe des déclarations et des expérimentations à des actions qui peut-être sont plus modestes, mais dont on pense qu'elles seront plus effectives pour les priorités qui sont l'efficacité et l'autonomie.
Dans les inquiétudes, il y avait l'attente d'une publication d'un document dont tu as parlé tout à l'heure, qui est le fameux SIL, donc le socle interministériel de logiciels libres, hein, qui a donc été publié récemment. Donc ce document a notamment vocation à encourager l'usage concerté et coordonné des solutions libres dans l'administration. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit brief sur ce SIL, d'où il vient, où on en est, et puis peut-être les évolutions futures ?
Bastien. Alors, comme je disais, le SIL, c'est un projet historique et emblématique qui mobilise environ 150 agents dans différentes administrations qui essayent de faire remonter un peu quels sont les logiciels libres en usage dans les ministères, quels sont ceux qui sont cruciaux et surtout qui demandent à des agents d'être référents, d'être porteurs pour tel ou tel logiciel auprès des autres administrations. Donc concrètement, ces agents-là se retrouvent en réunion plénière d'une journée, échangent sur leurs pratiques d'utilisation du libre, de développement et autres. On a par exemple eu une présentation de l'installation de GitLab dans un ministère.
Et donc, c'est quoi GitLab ?
GitLab, pardon, c'est un logiciel qui permet de déployer une forge, un site web pour partager du code source, soit publiquement, soit via du partage privé. Mais ce partage de code source, il peut se faire entre administrations et donc l'administration est utilisatrice notamment de ce logiciel et partage son expérience là-dessus. Donc le SIL produit, les gens du SIL qui sont dans ce qu'on appelle les groupes MIM, les groupes mutualisation interministérielle, se retrouver chaque année en réunion pour échanger des compétences. C'est vraiment la vraie richesse, c'est l'échange de compétences interministérielles. Et émerger chaque année un document qui est le socle, qui avait la forme d'un PDF avec plus d'une centaine de logiciels libres référencés et recommandés par l'État. Ce qui a changé avec Nadi Bouhanna, c'est que ce SIL auparavant était validé dans la réunion des DSI et après validation, il y avait une publication qui annonçait cette liste de logiciels recommandés. Nadi Bouhanna, au tout début de son arrivée, lançant des chantiers, dont un chantier qui est celui de labellisation de solutions numériques pour essayer de créer un écosystème de confiance autour de solutions numériques, libres et non libres, ne pouvait pas demander au DSI d'aller valider un document dont on prévoyait la refonte. Aujourd'hui, cette refonte elle est en cours. On a une réunion il y a une semaine et demie, je pense, où l'April était présente avec d'autres acteurs du libre et des ministères. Et l'idée, c'était un peu de faire le constat que c'est difficile de maintenir une communauté. Une communauté qui, en plus, n'a pas un portage officiel très net et très clair de la DINZIC, qui a eu un portage flottant. Ça, c'est un problème qui existait bien avant Nadi Bouhanna. Et donc, l'idée, c'est... Si on manque de gens pour vraiment porter de la recommandation, cette recommandation, elle perd de la valeur. Du coup, on s'engage plutôt dans une voie de remontée d'usage. C'est-à-dire que la richesse des échanges interministériels, eh bien, c'est d'aller publier ça pour toucher au-delà des ministères centraux, les collectivités, les villes et l'ensemble des acteurs. Et de cette remontée d'usage, réfléchir à des systèmes de recommandation entre guillemets plus latéraux, parce que le besoin, il est sur la connaissance. Un autre point important, c'est qu'au début du SIL, juste avant la circulaire HERO de 2012, les enjeux, c'était de faire converger les systèmes d'information autour d'un logiciel unique. Donc, on allait chercher dans les bases de données, par exemple, quel était le logiciel de base de données qu'il fallait recommander. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut toujours tenir compte des contextes et qu'on ne pourra pas dire ce logiciel de base de données libre est le meilleur des logiciels libres.
Et le seul à utiliser.
Voilà. Donc, on travaille sur de la remontée d'usage. Ce n'est pas facile parce qu'il faut embarquer l'ensemble des acteurs historiques qui sont souvent aussi des militants au sein de nos structures. Et il faut clarifier le positionnement de la DIMZIC sur la manière de les soutenir, ce qu'il n'a pas encore fait, ce qu'on fera dans les mois à venir. Et il faut juste faire circuler l'information autour des logiciels et remonter l'usage.
D'accord. Les logiciels, c'est le logiciel brique de base, c'est ce que vous appelez dans votre terminologie les souches logiciels libres ?
Oui, ça s'appelle les souches parce que c'est, l'ensemble est classé un peu aussi en fonction des systèmes de classification des logiciels et de vues qu'une administration a sur les systèmes d'information.
D'accord. Je précise ça parce que comme ce terme est souvent utilisé dans les documentations de la DIN-SIC, c'est important à savoir. Alors, on verra tout à l'heure sur la partie... l'accompagnement de des administrations dans la publication de code source, mais là on va parler d'une autre souche parce que c'est intéressant et d'un projet qui est né à la DINSIC il y a quelques années maintenant et qui justement est basé, si j'ai bien compris, sur une souche logicielle libre. C'est un projet de messagerie instantanée, exclusivement, si j'ai bien compris, destinée aux agents de l'État, notamment pour échanger des informations sensibles. Donc je suppose que c'est en réaction ou en tout cas pour offrir une alternative libre, sécurisée et on va dire fiable, loyale à WhatsApp par exemple. Donc Xavier Béchade, tu es le chef de projet de CHAP.
Alors, je m'occupe du projet de CHAP. Alors, pour lui rendre honneur, et je m'excuse d'abord la part, le vrai chef de projet de CHAP est mon collègue Jérôme Ploquin, mais l'émission étant en période estivale, il est malheureusement en congé, donc je vais le présenter pour ça. Donc voilà, mais je m'occupe de ce projet aussi. Donc,
alors, CHAP, ça vient d'où et c'est quoi en fait ?
Alors, ça vaut la peine effectivement de revenir sur la raison d'être de ce projet, le contexte, qui est effectivement ce qui a été cité, à savoir qu'on est parti d'un constat qui était que on avait de nouveaux usages qui se déployaient, effectivement, WhatsApp, mais aussi Telegram, tout ce qui est connu du grand public, et que ces applications tirent pas mal d'usages, et finalement changent nos habitudes numériques, y compris dans toutes les communautés, jusqu'au sein de l'État. C'est-à-dire qu'il est très tentant, en fait, d'utiliser ces applications pour un usage professionnel, mais c'est au détriment de la confiance qu'on peut y porter, et donc on a ressenti comme étant un des premiers intérêts que de s'intéresser à ce sujet-là pour proposer une solution qui soit pérenne. Ce qui nous a fait démarrer sur cette initiative, ça a été de constater qu'on voulait sécuriser les communications des hautes autorités et qu'on se rendait compte que ces gens-là, en fait, sont d'une nouvelle génération et que le SMS, c'est bien, la voix, c'est bien aussi, mais si on ne peut pas faire du chat, ben, ça ne marche pas.
Donc c'est la génération WhatsApp, en fait.
Exactement. Et clairement, c'était une époque politique, cette date de mai 17. La question nous est arrivée, en fait, collégialement, et la DINSIC s'en est saisie à l'automne 17, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc on a regardé un peu le tour des solutions, que ce soit éditeur ou libre, on a regardé un petit peu l'ensemble du panorama pour voir ce qui pouvait être une bonne réponse à cette problématique. Et on a fait un tour complet, avec ce besoin de développer un besoin d'outils collaboratifs. On a regardé avec l'aide de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, puisqu'on s'est entouré de sachants dans ce domaine pour être orienté. On a fait un tour de table à peu près de tout ce qu'on pensait exister dans le domaine. On a vu du libre, de l'éditeur. Et on a fini par prendre une orientation en retenant justement un produit existant et en s'orientant sur une stratégie libre. Qui en fait, on a regardé un des produits, on a trouvé là une souche alors, un projet je préfère dire, qui est un projet qui s'appelle Matrix Riot, qui d'un point de vue de technicien, nous semblait avoir de bonnes garanties de développement et jusqu'à présent, on touche du bois, on est assez heureux là-dessus. Il y a une communauté active, un critère, parce que faire le pari du libre, c'est aussi faire le pari d'une évolutivité. Et on voit une communauté qui est active, un produit qui se développe et une synergie qui passe autour autour de ce projet. Voilà à peu près le démarrage. Et effectivement, début 2018, on s'est engagé, on a fait un petit test, on a vu que ça marchait. Et on est parti sur un projet à partir d'un cahier des charges d'exigences fonctionnelles. Alors, on a un petit peu fait le tour des popotes pour voir ce qu'on voulait. Il fallait que ça soit à l'état de l'art. un certain nombre de choses comme, qu'on ne retrouve pas non plus dans des messageries, comme avoir accès à un annuaire, des choses toutes bêtes. Comment transposer une messagerie grand public à un usage professionnel. Il y a des choses en plus, alors je ne vais peut-être pas les détailler maintenant, mais on a beaucoup de choses qui ont été apportées, mais on a voulu rester dans l'esprit de « on colle au plus près de, du projet libre ».
Et l'ANSSI, donc, sur le fait que ce soit un projet libre, quel était l'avis de l'ANSSI ?
Alors, l'ANSSI a toujours été très clair là-dessus. Et notamment sur la sécurité, je répéterai ce qu'on nous a dit, la sécurité n'est pas dans le secret. Donc, ça ne sert à rien de cacher son code. À partir de là, le libre, il est parfaitement ouvert. Et ils ont été très accompagnants là-dessus. Alors évidemment, faire du libre, ça veut dire quelque chose, quelques réflexes élémentaires. Genre, si vous trouvez une faille de sécurité, vous ne commencez pas par la mettre sur un répertoire ouvert au public avant de le corriger. Vous corrigez d'abord, et après, ben, vous mettez votre correctif dans le code qui est partagé. On utilise des repositories ad hoc. Donc l'ANSSI a toujours été très accompagnante. Et aussi, partant du fait que le constat de départ, c'est que ne rien faire, ça veut dire continuer à avoir l'utilisation de WhatsApp ou de Telegram. Donc, il faut voir aussi ce qu'on fait. Et là, dans le domaine de la sécurité, on a toujours eu cette possible opposition entre la sécurité et l'ergonomie. Et là, on a cette démarche consistant à dire, mais il faut une sécurité d'un bon niveau, il faut surtout toucher le plus grand nombre. La vraie sécurité, c'est le produit du niveau de sécurité par le nombre de personnes qu'on peut atteindre. Et si on sécurise parfaitement un produit fermé, il n'y a pas de sécurité.
D'accord. Donc on va préciser que Chap en lui-même est un logiciel libre dont les sources sont disponibles sur un dépôt de sources. On mettra le lien pour les personnes intéressées. Mais par contre, c'est un outil donc, qui est de messagerie qui est exclusivement destiné donc, aux personnes de l'État. Ça.
Alors, on peut le préciser qu'actuellement, Chap est ouvert depuis plusieurs mois et est destiné aux agents de l'État. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est, on va dire, exclusif. Et sans rentrer dans des détails particuliers, il y a aussi une vocation qui est de s'étendre pour qu'on puisse interagir avec des personnes avec qui on doit discuter, qui ne sont pas forcément des agents de l'État. D'invitation. Mais là, j'anticipe un peu sur l'évolution du produit. Chap est un produit jeune, il se démarre maintenant et actuellement, c'est cela.
Ok, bon, on reviendra sur l'évolution tout à l'heure, et notamment ma question sur la volonté de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui utilisent Matrix, mais en n'étant pas sur l'État, mais on reviendra tout à l'heure sur l'évolution des fonctionnalités. On va revenir un petit peu donc, sur le deuxième sujet qu'a cité tout à l'heure Bastien, qui est notamment donc, Bastien Guéry, l'accompagnement et de l'administration pour la publication de codes sources par l'État, et déjà le recensement de codes sources. Donc ça, c'est en tant que référent logiciel libre, je suppose que c'est une partie de ta tâche. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur l'importance de cette tâche et puis les bonnes pratiques, l'évolution?
Oui, tout à fait. D'abord, juste une parenthèse un peu, parce que c'est important, je pense, dans l'esprit des gens, de mesurer les dimensions en termes d'administration. La DINSI, qui est une administration de 140 environ agents. Donc, on est tout petit, y compris par rapport à des grandes DSI d'autres.
DSI, direction des systèmes d'information.
Voilà, d'autres directions des systèmes d'information des ministères. Donc, on est dans l'incitation et la valorisation et l'accompagnement au quotidien, au fil de l'eau, j'allais dire. Ça prend la forme pour moi, par exemple, d'un mail que je reçois de la Cour des comptes me disant nous avons ce logiciel, nous aimerions l'ouvrir, comment fait-on ? Donc, le comment fait-on, il y a une partie juridique de réponse aux questions sur quelles sont les licences à utiliser. Ces licences, elles ont été fixées par décret pour ce qui est des licences permissives, où on retrouve les licences habituelles, Apache, MIT et autres. Et on inclut aussi des licences à réciprocité, type GPL, Afero, CNU, Public License et autres. Donc, c'est répondre sur le plan juridique. Répondre sur le plan technique aussi, parce qu'en fait, les personnes avec qui je discute ne sont pas tout le temps directement les développeurs. Ça peut être soit des développeurs, si c'est un développeur interne à l'administration, soit le chef de projet qui récupère le code d'un prestataire. Donc ce chef de projet-là, ben, il n'a pas, il ne sait pas ce que c'est que le format Markdown pour un README, et il n'a pas forcément toutes ces habitudes-là qui font partie de nous, de la qualité qu'on veut encourager. Donc au quotidien, c'est ça, c'est accompagner des administrations sur leurs demandes d'ouverture. Des fois, c'est plus en amont. On peut imaginer soit une agence publique, soit un ministère qui va lancer un appel à projet. Et donc, dans le cadre de cet appel à projet, elle va faire des recommandations sur la publication des données en général, donc soit les données en open data, soit les données de logiciels produits dans le cadre de ces différents projets répondant à l'appel à projet. Et donc là, j'interviens un peu plus en amont pour essayer de mesurer les enjeux et toujours pareil, de répondre aux questions sur bah, c'est quoi une licence libre, c'est quoi l'intérêt de le faire et c'est quoi le risque de le faire. Il faut bien voir que c'est de l'énergie en plus, ça coûte d'ouvrir du code. Donc nous, on privilégie plutôt l'ouverture de nouveaux codes plutôt que d'aller chercher des projets déjà existants où là, la complexité, bah, je ne peux pas l'assumer seul et on n'est pas assez nombreux en termes de ressources pour accompagner l'ouverture de gros projets. Mais ça fait aussi partie de cela. À titre d'exemple, je discute en ce moment avec le développeur de la plateforme HAL, la plateforme de partage des publications scientifiques
en open,
HAL, voilà, la plateforme des publications scientifiques. Et donc, on discute de comment ouvrir ce code qui est ancien, qui a du legacy, où c'est compliqué.
Donc, du legacy ?
Legacy de l'héritage délicat à gérer. Le voilà. Code est une matière vivante et périssable. Donc, c'est ça l'ouverture, c'est l'accompagnement. Je veux dire en direct, un à un. En parallèle, on a commencé avec un collègue d'Etalab, Antoine Augusti, à essayer de faire un recensement un peu des comptes d'organisation présents sur GitHub, GitLab et d'autres forges, et qui sont des comptes d'organisation d'organismes publics. Donc on a le ministère des Finances, on a la DINZIC, on a différents projets. Ce n'est pas un compte d'organisation par structure, ce serait trop simple, ça peut être des comptes d'organisation par projet. Et on en a référencé plus d'une centaine qui nous donnent aujourd'hui une vue sur à peu près 2000 dépôts de code source. Donc si on veut un état du code source ouvert par l'administration, on a 2000 dépôts. Évidemment, là-dedans, il y a à boire et à manger, il y a des dépôts où il n'y a pas de licence, il y a des dépôts où il ne faudrait pas que ce soit ouvert. Enfin, il y a de tout, mais c'est un point de départ. Et l'idée, un peu comme je disais pour le CIL, on va aller vers l'usage plutôt que la recommandation. Ben là, c'est de prendre ce point de départ-là, d'essayer d'identifier des dépôts critiques qui demandent à être valorisés pour que une mairie, demain, aille chercher sur ce moteur de recherche, trouver un dépôt qui l'intéresse et qui est peut-être à terme de la mutualisation. La mutualisation, c'est le Graal dans le libre, mais souvent, on l'invoque très tôt, alors que c'est le plus compliqué à faire, encore plus quand on est une administration où il y a beaucoup de frictions et de petites cases.
D'accord. Bon, tout ça, c'est très intéressant et on va y revenir après la pause musicale. Alors là, on va changer de style par rapport à nos pauses musicales classiques et je remercie nos invités parce que les pauses musicales, c'est leur choix. Alors, on va écouter Nocturne, donc de Frédéric Chopin, mais par Franck Lévy et on se retrouve juste après.
Cause commune, cause-commune.fm 93.1. Thank you.
Alors, nous venons d'écouter Nocturne opus 9 numéro 2 en mi bémol majeur, j'espère que je ne dis pas de bêtises, de Frédéric Chopin, joué par Franck Lévy. Alors, c'est dans le domaine public. Cette musique a été trouvée sur un projet que je ne connaissais pas, en fait, qui s'appelle Muse Open, qui propose des enregistrements d'œuvres dont les partitions sont dans le domaine public et l'enregistrement est diffusé sous une licence libre. Eh oui, parce qu'effectivement, il y a aussi les droits voisins, il n'y a pas que les droits d'auteur qui jouent. Donc, quand on fera l'émission sur les musiques libres, on parlera de ça. Donc, vous retrouverez les références sur le site de la Pril. Donc, je remercie, alors, je ne sais plus si c'est Xavier ou Bastien qui avait proposé, c'est Bastien qui avait proposé ce titre. Et nous écouterons encore tout à l'heure de la musique classique. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Avant de reprendre, je vais répondre à la première question du quiz. En début d'émission, bon, il n'y a pas eu de réponse sur le salon ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, je n'ai pas vu passer. Donc, lors de l'émission du 2 juillet, nous avons parlé d'un outil en cours de développement, un outil libre en cours de développement pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Je vous demandais son nom et son site web. Le nom, c'est Bénévalibre. Et le site web, c'est assez facile, c'est bénévalibre.org. Donc, n'hésitez pas à le tester, notamment si vous êtes des associations, car c'est en cours de développement. Donc, il y a plusieurs partenaires qui participent, l'April, Framastoff, le Crédit Coopératif et la CRAGEP. Bourgogne-Franche-Comté, si je ne dis pas de bêtises. Bon, nous allons donc reprendre le sujet et on va revenir sur CHAP. CHAP, c'est T-C-H-A-P.
Tout à fait.
D'où vient le nom CHAP ?
Alors, merci de la question parce que c'est un nom qui a une petite histoire. Alors, CHAP, c'est une marque déjà qui est déposée, mais au départ, c'est un hommage au télégraphe CHAP. Alors, qu'est-ce que c'était ? Claude CHAP, c'est quelqu'un qui a inventé un projet de transmission par réseau sémaphore optique, c'est-à-dire des transmissions optiques qui dataient de la Révolution. Et ça a été finalement le premier système de communication nationale. Et pour les Parisiens qui connaissent, il y a un métro qui s'appelle Télégraphe. C'était en fait un point haut de Paris, au sommet duquel vous aviez les grands bras du télégraphe CHAP. Donc CHAP comme télégraphe CHAP. Donc c'est sorti directement de cette inspiration. Et on avait au départ pensé l'appeler CHAP. Moi je trouvais que ça évoquait Old CHAP, ça faisait un petit peu anglais, sympathique. Mais c'était plus difficile à prononcer.
CHAP dans le sens mon copain quoi.
Et oui, le copain. Oui, et puis en revanche, si ça avait été un petit peu lourd, ça aurait fait CHAP de plomb. On m'a dit que c'était pas une bonne idée. Donc sur le paperboard, on a fini par rajouter un T. Et là du coup, ça faisait aussi l'homophonie avec le chat anglais. Et on s'est dit, mais oui, c'est forcément une bonne idée.
D'accord, donc CHAP. T-C-H-A-P. Alors tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la genèse, des objectifs, on va peut-être voir aussi les évolutions à venir. J'avais une question que j'avais commencé tout à l'heure. Donc CHAP est basé sur le Matrix, donc, qui est un protocole de communication décentralisé. Le logiciel, c'est Riot.
Le logiciel client,
Riot. Le logiciel client, c'est Riot. Donc c'est de la messagerie instantanée pour les agents de l'État. Est-ce qu'il y a la volonté de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui sont sur d'autres messageries instantanées basées sur le même protocole, sur les mêmes outils ?
Alors, au départ, il y a le projet de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Parce que d'accord. Quand on est entre nous, une messagerie instantanée, c'est, on n'aura peut-être jamais quand même le milliard de WhatsApp, hein, mais il faut une communauté suffisante. L'entre nous, ça n'existe pas dans ce domaine-là, sinon l'application, elle est morte, l'usage n'est pas là. Le besoin, ça va être, et ça faisait partie aussi de notre ambition au départ, de pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas eux-mêmes des agents de l'État. Mais on a parlé de la sécurité tout à l'heure, donc le projet le plus court terme qu'on a, enfin vraiment important, c'est de pouvoir proposer que cette application soit utilisée aussi par des gens qui ne sont pas des agents de l'État. Donc ça, c'est le court terme. Et la partie interopérabilité pour y répondre, bon, ça nécessite un certain nombre de contrôles, c'est une ouverture, mais je pense qu'on est vraiment focalisé actuellement sur la question de l'ouvrir au plus grand nombre en utilisant notre messagerie pour des gens qui ne sont pas agents de l'État.
C'est-à-dire le grand public ?
Le grand public pourra... mais pas pour être invité par un agent de l'État. On peut imaginer d'accord. Des cas d'usage qui restent à créer.
Les prestataires peut-être de l'État.
Les prestataires sont autorisés par l'État.
D'accord.
Vous avez par exemple quelqu'un qui veut discuter avec un gendarme, je ne sais pas, mais à l'initiative du gendarme, peut-être il sera possible qu'il y ait une discussion vers l'administré ou le citoyen local.
Par exemple, dans le cas d'un dépôt de plainte, on peut imaginer ?
Je n'imagine pas des cas d'usage qui sont à créer. Au départ, CHAP, c'est vraiment fait pour faciliter les usages et développer l'environnement numérique de travail. Ce n'est pas un projet descendant, imposé. C'est basé sur l'agent se rend compte qu'il y a un bénéfice. Donc, on a des,
comment ce qui facilite l'adoption, en fait.
Pour faciliter l'adoption. C'est pour ça que c'est un projet qui a été piloté aussi par l'usage, le bénéfice pour l'utilisateur, la modernisation de l'environnement de travail de l'agent et le décloisonnement. Je pense que c'est important de parler du décloisonnement parce que...
Alors, explique-nous ce que c'est que le décloisonnement.
Le décloisonnement, c'est un grand mot. Alors, je vais parler d'une cloison qui existerait, une cloison virtuelle, bien sûr, entre différentes entités. L'État est une grosse entité, vu de l'extérieur, c'est plutôt beaucoup de petites entités en interne. Et chacun a sa direction des systèmes d'information et chacun a son système. Avec CHAP, on a un système qui ne nécessite pas d'infrastructure locale. Ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser, un peu comme n'importe qui peut utiliser WhatsApp. Voilà. Donc, le fait d'avoir un bien commun qui est cette messagerie et cette capacité à dialoguer, notamment en interministériel, c'est aussi quelque chose qu'on apporte en termes de transformation numérique au travers de cet outil, parce que ça n'existait pas.
D'accord. Très bien. Alors, je précise que sur le salon web de la radio, donc je rappelle causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton chat, et non pas chap, mais là, en l'occurrence, chat, on a des retours sur la musique de Chopin, donc Cousine et MDK, qui sont des pseudos qui disent voilà, que la musique est très belle, et MDK qui dit qu'il aime beaucoup travailler, enfin que la personne aime beaucoup travailler avec du Chopin, donc ça lui plaît. Donc on est ravis que ça vous plaise, parce que nous, ça nous a beaucoup plu ici, je peux vous le dire, et notamment Christian Maumont, membre du CA qui fait des photos aujourd'hui, était ravi. Et je sais que la musique d'après lui plaira encore plus. Mais bon, on va revenir à notre sujet, parce que le temps passe hein, quand même vite, et ces sujets sont passionnants. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de refaire d'autres émissions. On va peut-être un peu parler de... Est-ce que peut-être... Attends, tout à l'heure, juste avant de la pause musicale, tu parlais de la mutualisation. Est-ce que tu veux faire un point sur le Graal mutualisation ou est-ce qu'on parle tout de suite de Blue Hats? C'est les fameux chapeaux bleus qu'il y avait un événement Libris il y a quelques temps.
Bastien. Je ferai plutôt un pas de côté par rapport à la mutualisation, mais pour rebondir aussi sur ce que disait Xavier et dire qu'il y a l'un des effets importants que CHAP a, par exemple, c'est de sensibiliser les agents à la question de la souveraineté. Donc, la souveraineté numérique dans l'utilisation des outils. Le fait d'avoir mis cet outil à disposition, on n'est pas là pour simplement convaincre des convaincus. Bah, des gens arrivent parce que l'outil est disponible. Et arrivant parce que l'outil est disponible, se familiarisent avec les enjeux de souveraineté. Donc, c'est un vecteur important interne. Et cette sensibilisation via les outils du projet très important qui est l'environnement de travail numérique de l'agent, qu'on appelle Etna en interne,
Etna.
D'accord. Voilà, pour l'environnement de travail numérique de l'agent. Xavier, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais c'est on a des agents publics qui sont très très nombreux et qui ont un poste de travail qui est parfois désuet, qui est parfois compliqué et avec des outils qui sont pas forcément à jour. Et la DINSIC a à cœur vraiment de mettre ça dans sa priorité. C'est la simplification des services pour les usagers, les citoyens, mais aussi l'amélioration des conditions de travail des agents. Et là aussi, bah, dès que le logiciel libre peut être utilisé comme un levier pour cet objectif-là, on le fait. On le fait avec CHAP, on le fait aussi avec Jitsi, la solution de web conférence. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas la DINSIC tout le temps qui est faiseur, mais elle est en animation et en coordination de projets interministériels. Donc sur Jitsi, c'est par exemple notamment porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Voilà, c'était juste ce petit pas de côté pour dire que c'est derrière les enjeux de souveraineté de façon un peu abstraite, il y a aussi des enjeux vraiment de confort et d'efficacité au quotidien du travail de l'agent. Et dès que le libre a son mot à dire là-dedans, on y va.
Ouais, de toute façon, récemment, on faisait une émission sur la bureautique libre, notamment LibreOffice et la migration de la ville de Grenoble. Et un point essentiel, c'était qu'il fallait partir aussi des besoins et du confort d'utilisation des personnes qui allaient utiliser l'outil. On n'utilise pas un outil juste pour le plaisir que de l'utiliser, il faut partir de là. Donc tout à l'heure, j'ai cité Blue Hats avec les chapeaux bleus. Donc Blue Hats, c'est quoi? C'est une communauté justement d'agents de l'État impliqués dans le logiciel libre. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors Blue Hats. Moi, je revenais de 2 ans passés dans le programme d'entrepreneurs d'intérêt général. J'avais compris l'intérêt non seulement d'avoir des profils atypiques dans chaque administration, mais aussi d'avoir une communauté. Blue Hat, c'est né de l'idée que ce serait bien de favoriser, Xavier a dit décloisonnement, mais c'est un peu ça, de favoriser les échanges entre personnel compétent, agent public compétent sur des profils techniques, donc développeurs, dans l'administration, dès lors qu'il s'agit de logiciels libres, et d'ouvrir cet échange de compétences, qu'on appelle avec Laurent Joubert, qui a conçu l'idée avec moi, compagnonnage. Donc, c'est d'encourager un peu une forme de compagnonnage, d'accompagnement, de communauté autour de problématiques techniques. Si on a une problématique, je ne sais pas, autour des bases de données, on a cité ça tout à l'heure, de la migration vers des bases de données relationnelles à des bases de données NoSQL, et des gens qui font des bases de données non relationnelles peuvent se mettre ensemble pour tester les outils, expérimenter, partager. Et c'est surtout l'idée aussi de s'ouvrir hors administration, à des gens qui peuvent apporter des compétences. On veut que les libristes qui sont engagés aujourd'hui dans de l'échange de compétences, que ce soit des ateliers de contribution comme Framasoft aussi peut en organiser, dans ces ateliers-là, il n'y ait pas de raison qu'il n'y ait pas d'agent public. Et donc, c'est favoriser ça. Aujourd'hui, Blue Hat, les ateliers ne sont pas formellement lancés parce qu'on ne voulait pas que ce soit un mouvement descendant. Et la contribution de la DINZIC, c'est l'éditorialisation tous les deux mois d'une gazette, c'est la Gazette Blue Hat, qui a aujourd'hui 570 inscrits. Et donc, on diffuse des nouvelles de logiciels libres dans l'administration. Donc, démontée de version, des ateliers qui s'organisent ailleurs.
Précisons que donc, les personnes qui sont inscrites, n'importe qui peut s'inscrire. Oui. C'est pas uniquement des personnes de l'administration. Je suis inscrit à cette liste. Donc, on mettra le lien, évidemment, sur le site de l'April. Donc, toute personne intéressée par en fait, ce qui se passe dans l'administration et le logiciel libre peut s'inscrire à cette gazette, donc, qui est une lettre d'information électronique.
Exactement.
Tous les deux mois, c'est ça ?
C'est ça. Donc, on envoie un email et puis on reçoit aussi des contributions. Donc, les gens qui ont à dire moi, je suis prestataire, je travaille avec telle collectivité territoriale, on a mis en place ça et voici la page, l'URL du cas d'usage qu'on voudrait partager avec le reste de la communauté. On fait remonter ces
URL, informations. C'est l'adresse web sur laquelle on trouve la page.
Oui, ouais, ouais. Oui.
Tu
fais bien de me déchiffrer.
C'est un défaut de toute personne qui est passionnée par son activité.
D'employer
des acronymes ou des mots qu'on pense maîtriser. Donc ça c'est voilà. Donc on encourage évidemment les personnes qui nous écoutent à s'inscrire à cette gazette pour recevoir tous les deux mois l'état de l'art, on va dire, de logiciel libre dans l'administration, et puis évidemment de pouvoir aussi proposer des contributions, de ne pas hésiter à le faire.
Voilà, c'est aussi partie du constat de la force de l'échange communautaire au sein du programme Entrepreneur Intérêt Général, et aussi si on regarde dans les 10 organisations qui publient le plus de code source sur GitHub, parmi ces 10 organisations, il y en a deux qui sont BetaGouv et Etalab sur l'ensemble des organisations en France. Donc,
dans le monde.
Non, pas dans le monde, en France, simplement en France. Mais ça veut dire qu'on a du code libre, ouvert, qui n'est pas forcément connu des gens, qui n'a pas forcément vocation à être tout le temps mutualisé ou à recevoir des contributions. Ça, c'est aussi un point important. Mais dès qu'on peut valoriser des choses qui se font et surtout augmenter la surface de contact avec la société civile et les libristes, développeurs, autres, parce que dans les 6 priorités que j'ai citées, on a l'attractivité. L'État, et ça c'est pas un problème franco-français, mais toutes les structures publiques dans le monde ont le besoin d'attirer des profils techniques qui coûtent cher, qui sont différents, qui sont difficiles à recruter. Et on pense que, en valorisant ce qui se fait dans le logiciel libre, ça nous aidera à recruter.
Voilà, quand tu parles de recrutement, et je confirme, parce que dans le domaine de l'entreprise, des entreprises de logiciel libre, toutes les entreprises du logiciel libre disent qu'elles ont du mal à recruter. Et donc, c'est effectivement comparable à l'administration. Et comme je l'avais déjà dit lors de la première émission avec Laurent Joubert et Mathilde Bras, quelque chose que je trouve formidable depuis quelques années à la DINZIC et à Etalab, c'est justement la présence de personnes comme Bastien, qui viennent des communautés logiciels libres, ou Laurent Joubert et d'autres, qui apportent une expérience et qui, alors qu'initialement, on en parlait avant l'émission, tu viens d'un autre monde totalement différent et qui apportent une vraie expérience totalement différente. Et voilà, donc c'est au-delà des inquiétudes qu'il pouvait y avoir en début d'année. Il faut saluer ce travail-là, cette présence de ces personnes vraiment impliquées depuis longtemps et qui apportent énormément de choses. Alors, le temps passe très vite. En fait, je vais vous laisser choisir ce dont vous voulez parler pour finir l'émission. Est-ce qu'il y a un point ou deux que vous souhaiteriez aborder ? Peut-être le marché de support, je ne sais pas, ou le contexte européen autour du libre dans les administrations, ou des messages à faire passer, je ne sais pas. Bastien, Xavier ?
Alors, moi, j'ai...
3-4 minutes
sur,
maximum.
Juste sur ce que tu viens de dire, moi, je suis très heureux d'être à la DINDIC, à Etalab. Il y a la même effervescence, la même créativité. On a déployé, Christian Quest avait déployé une instance de Mastodon. On réfléchit aussi à continuer ce travail de...
Alors Mastodon, c'est un outil de microblogging, de micro... Alors, j'allais dire microblogging, donc c'est moi qui me plante.
Un message outil de messages courts, fédérés, qui permet
décentraliser,
de... Décentraliser. C'est pour remplacer Twitter. Donc, on est encore dans l'expérimentation et il y a vraiment cette effervescence qui est très agréable. C'est bien de venir. Ce qui est difficile, c'est de rester et de s'engager longtemps. Donc moi, je m'engage au moins jusqu'à la fin de mon mandat qui dure 3 ans.
Ah, c'est ma question, ça dure combien de temps ?
Ça dure 3 ans et si je peux, je resterai. Donc je pense que c'est important d'essayer d'incarner longtemps les problématiques parce qu'il y a forcément un temps d'apprentissage. Moi, je ne suis pas arrivé avec des leçons à faire à qui que ce soit. J'apprends. On apprend parce qu'on ne connaît pas les contraintes d'avance et puis on avance doucement. Peut-être un mot sur le contexte européen. Il y a des projets très intéressants, notamment un projet qui s'appelle The Foundation for Public Code. Qui a travaillé un référentiel de métadonnées pour décrire les dépôts de code source partagés par le secteur public. Donc ça, c'est l'un des chantiers qu'on voudrait enclencher, c'est-à-dire à partir de la liste des 2000 dépôts de code source public qu'on trouve, commencer à éditorialiser et inciter d'utiliser ces métadonnées pour que les catalogues qui se construisent en Italie, en Hollande et dans d'autres pays puissent avoir un peu les mêmes données de référence et encourage la mutualisation. Je sais qu'autour de CHAP, il y a d'autres pays qui se sont montrés intéressés. Et être capable de décrire CHAP avec des métadonnées claires sur quelles sont les contributions attendues, par où commencer quand on veut aider, ou quelle est la licence, des questions factuelles, ça peut aider. Donc moi, je crois beaucoup à cette forme de mobilisation. Et pour dire aussi qu'on est on a des rendez-vous un peu réguliers avec le service numérique canadien, par exemple, qui est un peu l'équivalent des startups d'État, qui va améliorer le service numérique, et qu'on a tous à cœur de voir comment le libre peut aider comme levier. Le libre est utilisé partout, il faut maintenant pas seulement l'utiliser, mais identifier là où il est critique, et là où il est critique que l'administration elle-même contribue.
D'accord. Xavier Béchad, tu as le mot de conclusion.
Alors, moi, j'aurais d'abord eu beaucoup de plaisir à vous présenter CHAP et ça aurait été trop court. Peut-être juste un mot pour ceux qu'on n'aura pas pu dire. Il y a une foire aux questions en ligne. Donc, si vous voulez y aller, je vous renvoie sur www.chap.gouv.fr/FAQ. Parce qu'on n'aura pas le temps de tout déployer. Et pour aller dans le sens de Bastien, il y a beaucoup d'intérêt à l'étranger aussi. Et je pense qu'on a prouvé qu'on pouvait adresser des sujets de souveraineté aussi, sous un autre angle que ce qu'on fait d'habitude, et que ça suscite beaucoup d'intérêt.
Écoutez, c'est très bien. Donc, je vous remercie tous les deux. Donc, Xavier Béchat du projet CHAP, Bastien Guiry, donc référent logiciel libre à la DINSIC, donc Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Merci à vous. Je vous souhaite une
Merci
belle
beaucoup.
Journée.
Merci.